Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, la une de l'hebdomadaire Environnement, la rébellion des scientifiques. Denis Siffer, bonjour.
Bonjour.
Votre édito, une guerre mondialisée, la guerre d'Ukraine est en passe, écrivez-vous, d'impliquer la Terre entière.
Oui, c'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre mondialisée, c'est-à-dire que effectivement, il y a toujours beaucoup de une certaine retenue, disons, dans ce qu'on appelle la co-belligérance. On peut penser d'ailleurs que d'une certaine façon l'arme nucléaire opère encore dans sa fonction dissuasive, mais c'est une guerre mondialisée parce que on voit que de plus en plus de pays sont touchés par d'un point de vue surtout économique, quelquefois géopolitique aussi, parce qu'il y a des intérêts croisés avec la Russie, parfois des pays du Moyen-Orient par exemple, mais pour la plupart c'est des effets économiques, c'est les contre-sanctions de Poutine qui agissent sur ces pays d'Afrique et du Moyen-Orient en particulier, et qui vont agir de plus en plus. On le voit avec l'affaire du blocus du port d'Odessa, avec des millions de tonnes de céréales qui risquent de pourrir sur pied.
Une guerre qui accentue les inégalités économiques et sociales.
Oui, bien sûr, parce que dans tous ces pays, aussi bien, on voit l'Égypte en particulier risque d'être touchée très très vite parce que c'est un gros importateur de céréales ukrainiennes. Et ces pays-là, effectivement, c'est les populations les plus déshéritées qui vont être frappées les premières. Mais il faut dire aussi que dans les pays occidentaux, alors c'est beaucoup moins douloureux, mais l'inflation qui est aussi une des causes, notamment avec le renchérissement des produits d'énergie, de pétrole, du gaz, et puis aussi bientôt et rapidement des céréales, vont toucher aussi les populations les plus démunies.
Vous écrivez que les pays du Sud tiennent les sanctions occidentales pour responsables, plus que l'agression russe elle-même.
Il faudrait différencier cette appréciation, mais en règle générale, les pays du Sud, les pays du Moyen-Orient, d'Afrique également, encore plus, d'ailleurs, évidemment, ont un ressentiment qui est pas du tout infondé d'ailleurs, qui est de l'héritage colonial. Et donc, et puis il faut dire que la Russie aussi a une politique de très agressive à l'égard de ces pays-là, enfin agressive peut-être dans le bon sens du terme, mais on voit par exemple actuellement ce qui se passe, c'est que les céréales qui sont bloquées dans le port d'Odessa, les Russes essayent de les acheminer vers la Russie pour les exporter à leur tour vers des pays africains. C'est-à-dire que c'est effectivement plus les sanctions occidentales que l'agression russe contre l'Ukraine qui vont être perçues par défavorablement, bien sûr, par les pays d'Afrique.
Et sur cette guerre en Ukraine, vous évoquez l'optimisme forcé de la Maison-Blanche aujourd'hui?
Oui, alors on a vu une évolution de la. Enfin, je crains un peu de parler de propagande parce que il y a une propagande russe qui est grossière, qui est vulgaire, qui est énorme. On l'a vu, on le voit sans arrêt puisque on explique aux soldats russes qu'ils s'attaquent à la population de nazis en Ukraine, etc. Enfin, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais il y a une propagande évidemment soft occidentale et qui a optimisé au maximum, disons la dynamique, et la Maison Blanche en particulier a longtemps illusionné, disons, nos régions, nos pays, sur la possibilité d'une victoire militaire des Ukrainiens. Or, on en revient quand même si la Russie a démontré sa faiblesse, une faiblesse qui repose sur le mensonge, puisque Poutine ne peut pas mobiliser massivement, ce serait reconnaître son échec, ce serait reconnaître aussi qu'il est en guerre, alors que c'est un mot qui est banni du vocabulaire de propagande russe. Mais cependant, la machine, la lourde machine russe, inexorablement avance dans le Donbass, et l'illusion d'une victoire militaire ukrainienne recule. Et face à cela, il y a en effet une double stratégie, une stratégie américaine à laquelle adhèrent les pays d'Europe de l'Est, la plupart des pays d'Europe de l'Est, hormis la Hongrie, qui les conduits à souhaiter une aide militaire de plus en plus importante et qui mise toujours sur une victoire militaire. Et puis il y a une stratégie qui est beaucoup plus française et allemande et même italienne, disons à un degré moindre, qui vise à garder un canal de négociation avec Poutine au cas où à un moment donné ce dialogue pourrait être audible par le dictateur, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, russe.
Quelles sont les leçons de cette guerre pour la gauche française?
Il y a plusieurs leçons. Il y a la première leçon dont je me félicite, c'est que il y a une partie de cette gauche française qui très anti-américaine, qui n'admettait pas qu'il y avait un impérialisme russe redoutable et même aujourd'hui beaucoup plus redoutable sur le terrain de guerrier même que l'impérialisme américain. Ça, c'est un constat que tout le monde fait. Il est difficile aujourd'hui de nier cette évidence face à l'horreur de l'invasion et des massacres qui se sont perpétrés en Ukraine. Mais il y a d'autres leçons. Les leçons d'abord écologiques. On peut imaginer que la gauche va pouvoir avoir un discours qui percute un petit peu plus l'opinion et les dirigeants français et occidentaux sur la question de l'indépendance énergétique, de la sobriété énergétique aussi. Et tout ça, c'est vraiment la crise, après la crise du Covid, la crise ukrainienne devrait favoriser normalement cette progression qui est une progression de civilisation, je dirais, hein. Et puis bon, il y a d'autres données, mais il y en a une en revanche qui est difficilement audible. Une grande partie de la gauche est hostile à l'OTAN, souhaitait le retrait de l'OTAN. Je pense qu'historiquement c'est toujours juste de le dire, mais c'est vraiment pas le moment, disons, de mener cette bataille. Elle est totalement inaudible aujourd'hui, et c'est l'un des produits de cette guerre de Poutine, c'est que il a finalement renforcé l'OTAN et éloigné la possibilité d'une indépendance européenne vis-à-vis de l'OTAN, puisqu'on voit au contraire que il y a des pays même comme la Suède et comme la Finlande qui veulent adhérer à l'OTAN, et puis surtout les pays baltes, la Pologne, etc., sont très attachés, disons, au parapluie de l'OTAN. Et malheureusement, aujourd'hui, ce discours, qui n'est pas un discours, disons, anti-américain en tant que tel, mais qui est un discours d'indépendance européenne, il est très difficile à faire entendre.
Merci, Denis Siffer.
Merci à vous.
Votre édito dans Politis, une guerre mondialisée, et la une de l'hebdomadaire, environnement, la rébellion des scientifiques.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio-Orient.